La grande édition avec Clémence Gourdon-Negrini. Bonjour.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
La commune de Viggianello porte plainte contre le Civadec.
Elle soupçonne des dysfonctionnements et une pollution sur le site de l'ancien centre d'enfouissement. Le Civadec s'en défend. À Ajaccio, une enquête ouverte pour des violences sur des CRS. Les policiers qui n'étaient pas en service disent avoir été roués de coups en plein centre-ville dans la nuit de vendredi à samedi. Les auditions se poursuivent. Dans cette grande édition, visite guidée du théâtre L'Empire. Il rouvre ce soir après de longs travaux. Le nouveau maître des lieux, Michel Marty, a tenu à garder le cachet d'antan de la salle de spectacle. Quelles alternatives pour éviter le brûlage des déchets verts, trop dangereux pour la santé et pour l'environnement? L'association Humane met en avant la solution du broyeur de végétaux et ses bienfaits. Conseils pratiques en direct avec eux dans cette grande édition. Mais d'abord, on apprend à l'instant, selon l'AFP, la remise en liberté de la juge Hélène Guérard. Hier, elle a acclamé son innocence devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a affirmé n'avoir commis aucun crime et jamais pactisé avec le grand banditisme. La magistrate qui a travaillé en Corse de 2010 à 2016 est notamment accusée de liens suspects avec un membre de la bande du Petit Bar. Elle est mise en examen pour 11 chefs d'inculpation. On vous le disait dans les titres, la commune de Viggianello qui porte plainte contre le Civadec. C'est un nouveau rebondissement dans le dossier de la gestion des déchets en Corse. Plainte déposée pour une suspicion de dysfonctionnement sur les installations de l'ancien centre d'enfouissement. C'est depuis un épisode pluvieux, le 11 mars dernier, que la municipalité soupçonne une pollution du site. Le Civadec s'en défend, Hélène Battine.
Oui, c'est en effet suite à un épisode de forte pluie que la municipalité s'est inquiétée d'une éventuelle pollution sur ce site fermé en 2021, mais pour lequel deux bassins sont toujours en place, l'un contenant les eaux de pluie et l'autre ce qu'on appelle les lixivia, les jus issus de la fermentation des déchets enfouis sur place et mêlés aux eaux pluviales, une procédure normale de surveillance sur 30 ans compte tenu des infrastructures et de l'activité. C'est donc ce dernier bassin dont le niveau habituel est de 3,40 m et qui ne doit pas dépasser les 5,20 m qui aurait franchi la limite selon la plainte déposée par la municipalité le 9 avril dernier et appuyé par un constat d'huissier après avoir adressé une sommation interpellative au Civadec, une plainte qui ferait également état de la présence d'un tuyau se déversant sur place.
Et c'est donc précisément ce que conteste aujourd'hui le Civadec, Hélène.
Oui, pour sa directrice Catherine Lugiani, pas de problème sur le bassin de Lixivia, pas de débordement, ni de pollution, ni même de surverse, c'est un niveau normal des Lixivia en fin d'hiver. Pour ce qui est du tuyau, elle évoque un bout laissé sur place par l'entreprise ayant effectué le curage du bassin des eaux de pluie fin 2021, une eau pompée et amenée au bassin des Lixivia et pas l'inverse pour le traitement par osmose inverse permettant le rejet de liquide purifié dans la nature, une solution courante, dit-elle, mais ponctuelle. À ce stade, de son côté, la municipalité ne souhaite pas communiquer. Une enquête est menée par la gendarmerie avec l'Adrial.
Merci pour toutes ces précisions. À Bastia, Pierre-Jean Franceschi est toujours en garde à vue. Le diacre de Penta di Casinca est entendu depuis hier dans le cadre d'une enquête menée par le pôle économique et financier de Bastia. Enquête ouverte notamment pour travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale. Selon nos confrères du Parisien, il aurait hébergé contre rémunération des personnes âgées en situation de fragilité. 350 000 euros auraient ainsi pu échapper au fisc. On vous en parlait dans les titres, cette enquête ouverte à Ajaccio pour des violences sur des CRS. La rixe aurait eu lieu en pleine nuit au beau milieu de la cité impériale, Leria Maria Mousso.
Oui, selon le procureur de la République, Nicolas Sept, ces policiers de la CRS 5 et de la CRS 54 ont d'abord passé la soirée au casino, puis dans un bar du centre-ville, sans incident particulier. L'un d'eux serait ensuite sorti discuter avec une femme non identifiée, et c'est là qu'il aurait été reconnu par un homme qu'il avait verbalisé dans la journée. S'ensuit une agression physique. On ne sait pas pour l'heure combien de personnes seraient impliquées, mais les CRS, eux, étaient une dizaine, ce qui laisse penser que leurs adversaires étaient au moins aussi nombreux. Estime le procureur, avec un petit noyau de deux ou trois agresseurs violents. Cinq CRS ont été légèrement blessés, avec pour certains des ITT de 5 à 6 jours. Une enquête pour violence aggravée a été confiée à la DIPN d'Ajaccio, qui a bien avancé dans le recueil des témoignages. Des auditions devraient suivre très prochainement.
Et précision de Léria Marie Amousso. Revirement au Cap Corse. Sur son compte Twitter, le maire de Tomino annonce que les acquéreurs de la tour génoise renoncent finalement à leur projet de transformer cette tour en meublé de tourisme. François Orland dit bonjour.
Bonjour.
Comment avez-vous appris cette nouvelle ?
Tout simplement par l'intermédiaire de la personne qui était chargée de la transaction, donc qui m'a informé que le projet était abandonné par les potentiels acquéreurs.
Est-ce que cette personne vous a détaillé un petit peu ses motivations ? On suppose que c'est toute la mobilisation qu'il y a eu pour ne pas que cela arrive ?
Alors, je pense que ça a certainement contribué à leur décision. Ceci étant, c'était un dossier qui est en cours d'instruction, un dossier qui, d'ailleurs, n'était pas complet, et pour lequel les délais, aussi bien d'instruction que de recours, n'avaient pas démarré. Donc, nous étions vraiment aux prémices d'une procédure qui aurait pu durer. Et je crois que la raison l'a emporté avant que des arguments juridiques ne viennent s'imposer. Maintenant, tout le monde, je crois, prend conscience que les édifices de ce type méritent une destination qui n'était pas celle prévue.
Et alors justement, François Orland, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quelle suite dans ce dossier ? Est-ce qu'il faut, est-ce que c'est possible que la tour revienne dans le domaine public pour éviter de nouveau ce type de volonté ?
Alors, vous avez bien fait de préciser le domaine public. En effet, je pense que la destination d'une tour de ce type, si elle devait être vendue, parce que les propriétaires ont aussi la possibilité, bien sûr, de la conserver, c'est une des rares tours privées de Corse, pour qu'elle rentre dans le domaine public, eh bien, deux options. Soit la commune l'acquiert, mais il faut pour cela un prix raisonnable, et surtout les soutiens financiers, notamment de la collectivité de Corse. Je crois que tous les témoignages dont nous avons bénéficié aujourd'hui justifie que la collectivité se positionne soit pour un soutien financier, soit pour une acquisition pure et simple.
Vous avez déjà eu un retour en ce sens de la collectivité pour être aidée ?
Non, pour l'instant, je n'ai eu que des échanges au plus haut niveau, d'ailleurs, de la collectivité, des échanges et des soutiens apportés pour notre démarche. Je crois que leur concrétisation aujourd'hui, elle tiendrait dans le fait que soit la collectivité se porte acquéreur puisqu'elle est propriétaire de la quasi-totalité des tours de ce type sur l'île, soit en aidant la commune, si nous parvenons avec les propriétaires à trouver un accord financier, un accord en tout cas sur le prix de vente.
Affaire à suivre. Donc merci beaucoup François Orlandi d'avoir été en direct avec nous dans cette grande édition.
Merci à vous, bonne journée à tous.
À l'international, le bilan continue de s'alourdir dans la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas annonce que 33 899 personnes ont été tuées depuis octobre dernier. Guerre qui sera l'objet d'une conférence débat ce soir au cinéma Le Studio à Bastia. Elle sera animée par Pierre Stamboul, le porte-parole de l'Union juive française pour la paix et membre du collectif Palestine en résistance. Il était ce matin notre invité de la rédaction au micro d'Alexandre Sanguinetti.
Pierre Stamboul, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Bastia ce soir pour une conférence débat intitulée « Face au génocide à Gaza, que faire ?». C'est une vaste question qui appelle sans doute une réponse multidimensionnelle, mais le premier geste pourrait-il être, doit-il être un cessez-le-feu ?
Oui, bien sûr, parce qu'actuellement, il faut dire les choses en utilisant les mots corrects, c'est plus un risque de génocide, c'est un génocide en cours. Comme juif et comme fils de déporté, je sais ce que c'est qu'un génocide. J'ai été deux fois à Gaza en 2013 et en 2016, au nom de l'Union juive française pour la paix. Et nous avons là-bas de très nombreux amis, nous recevons quotidiennement des nouvelles de ce qui se passe. Et j'ai quelque part une aigreur pour la majorité des médias en France qui ne jouent pas leur rôle aujourd'hui, qui sont incapables de dire la vérité, qui sont incapables de traduire la souffrance de tout un peuple. Donc voilà. D'abord un cessez-le-feu, un retrait des troupes israéliennes, la fin du blocus de Gaza. Le but de ce massacre, c'est que les Palestiniens deviennent comme les aborigènes d'Australie ou comme les Indiens des États-Unis, un peuple vaincu, et on doit absolument empêcher ça.
Vous nous disiez que vous aviez des témoignages directs de ce qui se déroule à Gaza depuis des mois.
Nous avons plusieurs correspondants de l'Union juive française pour la paix à Gaza qui sillonnent la bande de Gaza, enfin, en ce moment c'est difficile de la sillonner, mais qui l'a sillonné avec une voiture marquée Union juive française pour la paix. Notre correspondant nous avait rejoint au Caire le 7 octobre. On avait l'autorisation française d'entrer à Gaza par Rafah, et puis la guerre a évidemment tout stoppé. Mais lui, il est rentré dès qu'il y a eu la trêve. Il organise, avec les fonds qu'on arrive à lui envoyer, des cantines collectives, des achats de gigantesques tentes, notamment pour les paysans que nous aidions depuis 8 ans et qu'il a réussi à reloger sur la plage de Canyonis, malgré les morts, parce que lui, il a des morts dans sa famille, les paysans en ont eu lors des bombardements, tout le monde a eu des morts. Les endroits où nous étions et où nous travaillons à Gaza sont rasés. Il faut imaginer ce que ça veut dire. Houza, Abassan, il ne reste plus rien. Les terres ont été complètement bousillées. Israël ne détruit pas seulement les gens. Ils détruisent tout ce qui pourrait être la production. Ils tirent sur les réfugiés, ils détruisent les routes, ils détruisent les puits, ils détruisent les centrales d'épuration des eaux, la station électrique. C'est véritablement la volonté de ramener Gaza à l'âge de pierre.
Est-ce qu'une des difficultés de cette guerre Israël-Hamas, c'est qu'elle ne fait que...
Je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas une guerre Israël-Hamas. Ça, c'est le langage de l'ennemi. Je suis désolé. C'est une guerre d'Israël contre le peuple palestinien.
Moi, monsieur, je n'ai pas d'ennemis. Savoir si bon, alors ce conflit ne faisait que renforcer les narratifs guerriers et belliqueux de chaque camp, en fait. Est-ce que le narratif de la paix a été oublié?
Écoutez, quand vous dites le narratif de chaque camp, je ne pourrai jamais, et je le dis ça en tant que juif, mettre l'occupé et l'occupant sur un même terrain. Mon père était dans le groupe Manoukian, il ne viendrait à personne de mettre sur le même plan le narratif de ceux qui l'ont combattu et du groupe et des résistants. Donc qu'aujourd'hui, la majorité des Israéliens se vivent en victime et pas en bourreau, ça fait partie d'une forme de névrose meurtrière, et je dis ça toujours en tant que juif, mais je ne pourrai jamais mettre ces choses-là sur un même plan. Donc je dis simplement le narratif, le vrai pour moi, c'est que à Gaza, il y a 75% de réfugiés qui sont les descendants de ceux qui ont été expulsés de leur propre pays, dans tout le sud d'Israël aujourd'hui. Il y a 72% des gens qui ont la carte de l'UNRWA, qui dépendent de l'UNRWA pour l'alimentation, pour l'éducation, pour la santé. Gaza est occupée depuis 57 ans. Gaza est bouclée par terre, par mer et par air depuis 17 ans. Gaza est un peuple qui a été criminalisé, qui a été assimilé à des terroristes. Je vous assure, à cause de tous les liens qu'on a là-bas, c'est une contre-vérité absolue.
Justement, on a l'impression que la qualité du débat en France, notamment, puisque c'est là que nous sommes, qu'on est en quelque sorte sommé de choisir un camp, et pas forcément celui de la paix. Est-ce que ce débat, il est trop tranché, il est trop violent? Comment est-ce que vous le définissez, ou vous le définiriez?
Il n'y a pas de paix sans justice. Et bien évidemment, ce que nous réclamons aujourd'hui comme solution à cette guerre, c'est qu'enfin, le droit international soit appliqué pour les Palestiniens, puisqu'il leur est nié depuis maintenant 76 ans. Ça veut dire, un, la liberté, fin de l'occupation, fin de la colonisation, destruction du mur, fin du blocus de Gaza, libération des prisonniers. Ça veut dire, deux, l'égalité des droits entre tous les habitants de la région, quelle que soit leur origine, leur identité réelle ou supposée, leur religion ou leur non-religion. Et ça veut dire, trois, la justice, c'est le droit au retour des réfugiés palestiniens, et maintenant ça va être aussi le jugement des criminels de guerre. Ça, c'est le droit international. Il ne peut y avoir aucune symétrie. Nous sommes des juifs antisionistes, nous sommes antisionistes, pas bien que juifs, mais parce que juifs. Parce que pour nous, vous devez bien comprendre que les juifs, ça voulait dire quelque part l'universalisme, ça veut dire des gens qui, vis-à-vis de l'oppression qu'ils ont subie, pensaient que leur émancipation comme minorité opprimée passait par l'émancipation de l'humanité. Aujourd'hui, toute l'extrême droite fasciste et raciste est avec Israël. C'est un contresens absolu. C'est une négation de notre identité. Il n'y a aucune symétrie. Quand vous parlez de paix, qu'est-ce que ça veut dire la paix si on maintient l'apartheid? Mandela avait posé 3 conditions pour sortir de l'apartheid en Afrique du Sud. Il avait dit, 1, l'Afrique du Sud est une et indivisible. 2, une personne égale une voix. 3, vous reconnaissez que l'apartheid est un crime. Il n'y a pas de paix possible si on ne transpose pas les 3 conditions de Mandela à Palestine-Israël aujourd'hui.
Pierre Stamboul, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci, au revoir.
La conférence débat commence à 17h30 au cinéma. Le studio à Bastia sera suivi d'une diffusion d'un documentaire d'Hervé Magnien, Un mur dans ma tête. belles alternatives pour éviter le brûlage des déchets verts, trop dangereux pour la santé et pour l'environnement? C'est la question que pose l'association Oumagne, qui propose des actions de sensibilisation et met en avant la solution du broyeur de végétaux. Bonjour Marie-Madeleine Ramin.
Oui, bonjour.
Vous meniez une opération de sensibilisation ce matin.
Oui.
Le brûlage, c'est trop dangereux?
Oui, en fait, l'association Oumagne souhaite attirer l'attention des citoyens sur la dangerosité du brûlage des déchets verts. Oui, alors en fait, c'est dangereux parce que ça pollue, c'est toxique pour la personne qui brûle, et puis aussi pour son entourage. La personne qui brûle, elle inhale directement des polluants et des particules fines. C'est néfaste aussi pour son entourage, pour ses voisins qui n'ont a priori pas forcément demandé quoi que ce soit. Voilà. Ça représente une part importante dans l'émission annuelle des particules fines. Ça émet du gaz carbonique, des gaz à effet de serre, etc. etc.
Ouais, double et danger environnemental, voilà. Et pour la santé.
Voilà. Et donc, surtout, Oumagne souhaite interpeller sur le fait que les déchets verts, ce sont des ressources qui sont précieuses et qu'il existe des alternatives pour les valoriser plutôt que de les faire partir en fumée et de produire du gaz carbonique.
Alors justement, ce fameux broyeur de végétaux que vous mettez en avant, donc on s'en doute avec son nom, hein, qui broie les végétaux, et ensuite l'idée c'est quoi? C'est de les réutiliser?
Oui, alors en fait, les déchets verts, vous pouvez les réutiliser. Alors là, ce matin, on est passé avec un broyeur dans les communes de Solars et puis de Serra di Viumorbe. Cet après-midi, on sera à Ghisonaccia, auprès de citoyens qui se sont manifestés auprès de leur commune. Ensuite, le broyat, on pourra le réutiliser en compost, en paillage. Ça va permettre de protéger le sol du froid, de le protéger de la chaleur, ça permet d'empêcher l'érosion. Quand vous avez un paillage au pied de vos plants, ça évite l'évaporation et donc ça limite les arrosages. Ça permet aussi d'empêcher la pousse des herbes indésirables. Et puis ça permet de maintenir ou de favoriser la biodiversité dans le sol et de restructurer votre sol. C'est très intéressant. Intéressant, beaucoup plus que de brûler son sol et de le dénuder.
Oui, à l'inverse du brûlage qui provoque des effets néfastes.
Oui,
là, en plus, on peut en profiter derrière.
Surtout dire que c'est vraiment très, très, très dommage de se priver de ces ressources qu'on peut recycler au jardin, qu'on peut valoriser au jardin.
Est-ce que d'autres villes, pour nos auditeurs qui nous entendent, seraient intéressées à cette présentation de broyeurs, sont visées par des opérations à venir de la part de l'association?
A priori, là, on a entamé cette campagne aujourd'hui. Elle se poursuit encore la semaine prochaine. On sera la semaine prochaine à Île-Rousse et puis à Porto-Vecchio. S'il y a des personnes qui sont intéressées, elles peuvent s'adresser à leur commune et puis les communes peuvent nous contacter. Voilà. L'idée, c'est que bien sûr, on nettoiera pas tous les jardins de Corse, mais ça permet de faire parler de cette méthode qui est utile et qu'il est important de diffuser.
Oui, petit à petit, semer cette graine alternative. Voilà, merci beaucoup Marie-Madeleine Ramin.
Je voulais juste te dire qu'on a des partenaires, c'est important. On a des partenaires qui sont Zéro Vraz, ou Terre de Lien Corse et Interbio Corse qui nous suivent. Et on espère donc qu'on va continuer cette opération pendant un moment.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct.
Merci.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Soirée cruciale du GFCA volley, c'est ce soir dans un Palatine ou à guichet fermé que les Ajacciens jouent la finale aller du championnat de Ligue B contre l'actuel premier du championnat, Cannes. Les joueurs de Fred Ferrandez comptent ce soir sur un Palatine chauffé à blanc pour faire tomber le grand favori de la compétition. Mais toujours est-il que les précédentes rencontres placent les Cannois favoris. Alors quelles sont les chances pour le GFCA de retrouver l'élite de Jean-Marc Cousanté?
Une chose est certaine, les Ajacciens ne sont clairement pas favoris. D'ailleurs, Frédéric Ferrandez, l'entraîneur du GFCA, le reconnaît bien volontiers. Mais cette position d'outsider lui convient parfaitement. Il faut donc s'attendre à voir entrer sur le parquet du Palatine ou un Gazélec revanchard. Et pour cause, il est tombé par deux fois en saison régulière et sèchement, qui plus est, 3-7 à 0. Des données que le groupe a bien à l'esprit et sur lesquelles il s'appuiera pour rendre la copie parfaite devant son public. Pour cette finale aller du championnat de France de Ligue B, pas de place au calcul. Seule la victoire sera belle et permettra aux Ajacciens de rêver à un éventuel retour au plus haut niveau. Une Pro A quittée il y a de cela 3 ans. Et pour réussir ce premier rendez-vous, Frédéric Ferrandez disposera d'un groupe au complet.
Merci beaucoup pour ces précisions et comme vous le disiez, selon l'entraîneur Fred Ferrandez, l'équipe est fin prête pour ce premier bras de fer.
Ils ont un cœur de bien faire, en tout cas dans leurs intentions, on le voit à l'entraînement comme dans leur comportement. Maintenant, il faut rester concentré et vigilant parce que c'est une finale. Avec le stress, on peut passer à côté de l'événement. Et la première fois, on faisait jeu égal jusqu'à la blessure de notre pointu. Donc à partir de là, ça nous a complètement désorganisés, on n'avait pas trouvé de solution. Et on a vu quelques stratégies, quelques systèmes défensifs et offensifs à mettre en place pour pouvoir faire déjouer, mais ça va nous demander une concentration de tous les instants.
Le match aller se joue au Palatine, on sait toute l'effervescence qui existe autour de ce match. Comment éviter de se laisser surprendre comme c'était le cas face à Cambrai où vous avez perdu le match à domicile? Est-ce que vous allez changer quelque chose dans votre discours ou c'est le même que vous tenez pour les rencontres précédentes?
Justement, je me suis appuyé sur ce match de Cambrai pour dire voilà, tout ce qu'on n'avait pas fait de bien sur ce match-là dans la préparation, dans les intentions. On sait que ça va être un gros combat, on sait qu'on n'est pas favori sur ce match-là, mais c'est peut-être ce qui nous convient le mieux.
Coup d'envoi à 20h. Le match retour, ce sera dans 4 jours, dimanche, à Cannes. Toujours à Ajaccio, la réouverture ce soir du théâtre L'Empire. L'inauguration, c'est ce soir. Elle est ouverte à tous à partir de 19h30. Et puis le premier spectacle aura lieu dès demain avec une pièce de théâtre avec Gérard Jugnot. Le tout dans une salle remise aux normes, mais qui a conservé son âme des années 60. Une dimension très importante pour le nouveau maître des lieux, Michel Marty. Il vous a fait visiter les lieux en avant-première, Marion Galland.
On est dans le hall, là, on voit, ça s'active.
Oui, ça s'active parce que ça touche à sa fin. On a donc finalisé là, la partie électrique, la partie incendie. On fait les dernières petites retouches et il faut absolument qu'on soit prêt du coup pour l'inauguration mercredi soir. Et puis tout va s'enchaîner très vite.
Il y a combien de personnes qui travaillent là?
Alors si on compte les électriciens, l'équipe incendie, nos équipes, la peinture, etc. On est aujourd'hui une petite quinzaine de personnes. On a bien augmenté nos équipes depuis 2-3 semaines. On est 15 personnes tous les jours.
Alors là, on est dans le hall et on voit ce bar qui est le bar qui existait tel qu'il est avant. En fait, on se sent presque à la maison.
Pour tous ces Ajacciens qui connaissent l'Empire depuis des années et qui ont eu leurs habitudes ici et leurs souvenirs, l'idée c'était justement de garder l'esprit du lieu. Donc on a gardé tout ce qu'on pouvait garder, tout ce qui faisait cette âme de ce bâtiment fin des années 50, début 60. On a remis en peinture, on a changé la verrière, etc. Mais les volumes restent les mêmes, l'architecture reste la même. On a essayé, nous, de l'embellir, de la mettre un peu au goût du jour, tout en gardant ce cachet et cette âme que tout le monde a connu sur ce théâtre.
Notamment l'entrée, la billetterie qui est exactement la même.
Oui, la guérite de billetterie, on l'a gardée, on a changé les couleurs, bien sûr, on est passé du rouge au vert foncé, mais vraiment tous les volumes, toute l'architecture, tout ça, on a tenu nous aussi à le garder, et puis c'était tellement bien fait, il y avait un tel caractère, c'était pas un truc sans âme et fade, hein, bien au contraire, donc il fallait absolument qu'on arrive à garder cela.
Allez, on va prendre le fameux grand escalier qui mène à la salle.
Donc là, on arrive par ces grands escaliers sur la partie balcon qui contient 400 places. Donc là, on a gardé l'intégralité des fauteuils existants. On les a bien sûr nettoyés, remis à neuf.
Et on se souvient, c'est ces fauteuils rouges.
Les gros fauteuils rouges en velours iconiques. Et on fait pareil en bas, où on a aussi remodelé un peu le positionnement pour être conforme aux exigences de sortie de secours, de sécurité, d'arrivée des personnes à mobilité réduite. Donc la
400
salle,
places en haut et
oui,
en bas.
Un peu plus de 500. Donc on est un peu plus de 900 places en tout. Le plus gros changement est sur la scène, puisqu'on a changé tous les rideaux, tous les équipements scéniques, son, lumière, arrivée électrique, etc. Alors ça se voit moins, mais le gros du changement a eu lieu ici.
On est là à 3 jours, 4 jours du premier spectacle, 3 jours d'inauguration. Ça fait quoi?
C'est quand même un aboutissement. On n'y pense pas encore vraiment parce qu'on est vraiment dans le rush des derniers jours. On profitera dans les semaines qui suivent.
Il y a déjà une programmation qui commence à s'étoffer. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et savoir si les spectateurs ont répondu présent?
Les Ajacciens attendaient vraiment le retour du théâtre avec impatience puisqu'ils ont été vraiment privés de ça pendant des années. Donc le théâtre a fait complet avec Gérard Jugnot, notamment le jour du Kiwi. Louane également le 20 avril, c'est complet. Ensuite, toute la programmation, qui n'est pas encore totalement dévoilée, est disponible sur le site de l'Empire. Et vous trouverez de la chanson corse avec Félix Jean-Charles Pape, puis de l'humour avec le comte de Bouderbala, avec Célig. On aura encore du théâtre avec Jonathan Lambert, avec Josiane Balasco. Voilà, tout ça, soit c'est déjà annoncé, soit ce sera annoncé dans les prochaines semaines. Mais la programmation va s'étoffer. On sera en capacité de vous annoncer déjà de septembre-octobre 24 à mai 25 très rapidement.
Inauguration ce soir donc, ouverte à tous à partir de 19h30 avec un apéritif musical et des visites insolites des lieux. Vous pouvez déjà découvrir quelques photos sur bleurcfm.fr.
RCFM, Maré-Ladine.
Quel était le climat de la Corse au début du XXe siècle? On dispose de quelques informations puisqu'il existait déjà un réseau de stations météo à l'époque. C'est ce que nous explique Denis Jouffroy au micro de Jérôme Souzy.
Un ouvrage qui vient de paraître donc chez Albian, à l'histoire climatique de la Corse, de la fin 19e au début de la Première Guerre mondiale, avec Denis Jouffroy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, on va dire, co-auteur avec Fabien Gaveau de cet ouvrage. L'histoire climatique de cette époque, on la connaît comment?
On a travaillé à partir de la presse insulaire de l'époque, de la presse nationale et de la presse internationale aussi, les archives préfectorales, les archives des sémaphores.
Ça intéressait qui à cette époque-là?
Le premier intérêt est un aspect militaire. Au lendemain justement de la guerre de Crimée, connaissance sur l'anticipation météorologique permettait justement d'avoir une information géostratégique majeure. Ensuite, l'intérêt aussi pour l'ensemble de l'activité économique, en particulier pour le transport maritime, et puis aussi l'ensemble de la population, les activités agricoles.
On n'était pas encore dans une communication en vue d'une activité touristique?
À la fin du 19e siècle, cette dimension touristique, on veut montrer un aspect positif, tempéré, l'ensoleillement, la chaleur, le beau temps en Corse, mais qui ne correspond pas à la réalité complète. La Corse est véritablement un pays particulier, c'est un laboratoire pour voir tous les aléas climatiques. Et durant cette séquence de 30 ans, on voit véritablement l'ensemble des aléas, des fortes inondations, des ouragans, des incendies, de fortes sécheresses. Alors sur cette séquence de 30 ans, véritablement, il y a très peu, entre guillemets, si je peux employer l'expression, très peu d'années de répit. Dans la même année, on peut avoir grandes séquences de neiges abondantes, avec des ouragans, voilà, et des années particulières qui ont été véritablement marquantes.
En tout cas, pour savoir comment les Corses vivaient sous cette météorologie, et au-là du moment, il faut donc lire cet ouvrage, l'histoire climatique de la Corse, aux éditions Albian. Denis Jouffroy, merci.
Merci.